Je vous invite à ouvrir la parole de Dieu. Nous allons faire quelques lectures. La première se trouve dans le livre du Deutéronome au chapitre 11. Et nous allons lire à partir du verset 26. Il est écrit, « Vois, je mets aujourd'hui devant vous la bénédiction et la malédiction. La bénédiction, si vous obéissez au commandement de l'Éternel votre Dieu, que je vous prescris en ce jour. La malédiction, si vous n'obéissez pas au commandement de l'Éternel votre Dieu, et si vous vous détournez de la voie que je vous prescris en ce jour, pour aller auprès d'autres dieux que vous ne connaissez point. Et lorsque l'Éternel ton Dieu t'aura fait entrer dans le pays dont tu vas prendre possession, tu prononceras la bénédiction sur la montagne de Garizim et la malédiction sur la montagne d'Ébal. » Nous allons ensemble dans le Deutéronome au chapitre 27 et nous lisons à partir du verset 9. Nous lisons « Moïse et les sacrificateurs, les Lévites, parlèrent à tout Israël et dirent « Israël, sois attentif et écoute. Aujourd'hui, tu es devenu le peuple de l'Éternel ton Dieu. Tu obéiras à la voix de l'Éternel ton Dieu et tu mettras en pratique ses commandements et ces lois que je te prescris aujourd'hui. » Le même jour, Moïse donna cet ordre au peuple. Lorsque vous aurez passé le Jourdain, Siméon, Lévi, Judas, Issachar, Joseph et Benjamin se tiendront sur le mont Garizim pour bénir le peuple. Et Ruben, Gad, Aser, Zabulon, Dan et Nephtali se tiendront sur le mont Ébal pour prononcer la malédiction. Et les Lévites prendront la parole et diront d'une voix haute à tout Israël. Et là, il y a une première partie qui commence par « maudit, maudit, maudit » et l'autre partie qui parle de la bénédiction « tu seras béni ». Et nous n'allons pas pouvoir tout lire, ça serait trop long. Nous allons ensemble maintenant, si vous le voulez bien, dans l'évangile de Jean au chapitre 4. Nous lisons « Le Seigneur sut que les pharisiens avaient appris qu'il faisait baptiser plus de disciples que Jean. Toutefois, Jésus ne baptisait pas lui-même, mais c'était ses disciples. Alors il quitta la Judée et retourna en Galilée. Comme il allait, comme il fallait qu'il passât par la Samarie, il arriva dans une ville de Samarie nommée Sichar, près du champ que Jacob avait donné à Joseph son fils. » Là se trouvait le puits de Jacob. Jésus, fatigué du voyage, était assis au bord du puits. C'était environ la sixième heure. Une femme de Samarie vint puiser de l'eau. Jésus lui dit, « Donne-moi à boire. » Car ses disciples étaient allés à la ville pour acheter des vivres. La femme samaritaine lui dit, « Comment, toi qui es juif, me demandes-tu à boire à moi qui suis une femme samaritaine ?» Au verset 10, Jésus lui répondit, « Si tu connaissais le don de Dieu, et qui est celui qui te dit « Donne-moi à boire » Tu lui aurais toi-même demandé à boire et il t'aurait donné de l'eau vive. « Seigneur, lui dit la femme, tu n'as rien pour puiser, le puits est profond. D'où aurais-tu donc cette eau vive? Es-tu plus grand que notre père Jacob qui nous a donné ce puits et qui en a bu lui-même ainsi que ses fils et ses troupeaux ?» Jésus lui répondit, « Quiconque boit de cette eau aura encore soif, mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif, et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. » La femme lui dit, « Seigneur, donne-moi cette eau, afin que je n'aie plus soif et que je ne vienne plus puiser ici. » « Va, lui dit Jésus, appelle ton mari, viens ici. » La femme répondit, « Je n'ai point de mari. » Jésus lui dit, « Tu as eu raison de dire « Je n'ai point de mari » car tu as eu cinq maris et celui que tu as maintenant n'est pas ton mari. En cela, tu as dit vrai. » « Seigneur, lui dit la femme, je vois que tu es prophète. Nos pères ont adoré sur cette montagne. Et vous dites-vous que le lieu où il faut adorer est à Jérusalem. » Femme, lui dit Jésus, « Crois-moi, l'heure vient où ce ne sera ni sur cette montagne ni à Jérusalem que vous adorez le Père. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous, nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient des Juifs. Mais l'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adorent le Père en esprit et en vérité, car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Dieu est esprit, et il faut que ceux qui l'adorent l'adorent en esprit et en vérité. » La femme lui dit : « Je sais que le Messie doit venir. Quand il sera venu, il nous annoncera toutes choses. » Jésus lui dit : « Je le suis, moi qui te parle. » Amen. Amen. On aime lire la parole de Dieu. Et ces lectures étaient peut-être un peu plus longues qu'habituellement, mais je pense qu'elles font du bien à notre cœur. On connaît cette histoire, cette femme samaritaine. On aime la lire parce qu'il y a là des révélations extraordinaires. Et je ne sais pas si vous avez vu où je vais en arriver cet après-midi, mais il y a un lien qu'on peut faire entre ces textes du Deutéronome et l'histoire de cette femme samaritaine. Le titre de mon message, c'est « Le puits de Jacob ». Et on a lu vraiment dans le Deutéronome, et on y reviendra vraiment tout au long de ce message, l'importance qu'il y avait dans le cœur de Dieu. Et même si ça peut surprendre, on peut avoir cette certitude que dans le cœur de Dieu, de toute manière, il y a le désir de bénir ses enfants. Mais comme chaque personne, chaque être humain sur terre est libre, Dieu a mis devant chaque être humain le choix de le suivre ou le choix de faire sa propre route, le choix d'aller sur le chemin de la bénédiction ou le choix d'aller dans la malédiction, la mort, on pourrait le dire ainsi dans le langage de la parole de Dieu. Et avec les textes que nous avons lus, le choix d'aller sur le mont Garizim ou le choix d'aller sur le mont Ebal. On ne peut pas parler que de bénédiction sans parler de ce que Dieu veut nous demander. On ne peut pas vouloir uniquement les bénédictions sans parler de la croix. On ne peut pas, dans notre vie chrétienne, vouloir marcher de bénédiction en bénédiction en mettant de côté ce que Dieu nous demande dans notre vie sur ce chemin qui est le chemin de l'obéissance, de la consécration et du renoncement à nous-mêmes. Le premier point que j'aimerais qu'on puisse partager ensemble, c'est le chant de Jacob. Le chant de Jacob, je l'ai intitulé « Où la puissance de Dieu ». On revient dans Jean chapitre 4. La Samaritaine est là. Et on voit que Jésus, lui, est fatigué. On connaît vraiment ce passage. On sait, je pense que vous êtes d'accord avec moi cet après-midi, pour dire que si Jésus était fatigué, s'il a décidé d'aller s'asseoir au bord du puits, s'il a décidé de passer par ce chemin, c'était parce qu'il était nécessaire qu'il rencontre cette femme. C'est là le ministère terrestre de Jésus. C'est d'aller de lieu en lieu, de faire du bien, de bénir, de guérir, mais également de rencontrer des personnes pour nous montrer, au travers de ces exemples que nous avons dans la parole de Dieu, qu'il y a sans cesse une relation que Dieu veut instaurer avec ses créatures, avec les êtres humains, hommes, femmes, enfants. Et Jésus est là. Et la femme samaritaine, on sait que son contexte est compliqué. On sait que sa vie est difficile. Et j'aimerais m'attarder un instant sur le chant de Jacob. Parce que la Bible, la parole de Dieu nous dit, et on l'a lu ensemble, il fallait qu'il passât par la Samarie, il arriva dans une ville de Samarie, près du chant de Jacob, près de ce chant-là. Et je me suis vraiment mis à la place de cette femme samaritaine, vous voyez. Et le chant de Jacob, c'était un endroit tellement significatif. Le chant de Jacob, vous allez tous vous dire « Ah mais oui, c'est ça !» On est là dans l'histoire, dans la vie de Jacob, où toute sa vie, vous savez, si on pouvait résumer la vie de Jacob, c'était une vie en dents de scie spirituellement, moralement, humainement, ça n'a pas été une vie constante, ça a été une vie difficile, et on pourrait dire un peu comme nous tous. Mais il va y avoir un moment marquant dans sa vie, où il va vouloir lutter avec Dieu, parce que là, il savait qu'il voulait la bénédiction, sa vie ne pouvait plus en être ainsi. Son nom va être changé, ça ne va plus être Jacob, ça ne va pas être plus être celui qui supplante, celui qui usurpe, ça va être celui qui lutte pour vaincre. Il va y avoir vraiment un chemin, un projet de paix dans sa vie. Et après ce passage-là, il va rencontrer, revoir son frère Ésaü, et on voit comment Dieu a mis les choses en place. C'était un autre Jacob, c'était une autre personne, comme nous tous. On a rencontré Jésus, on est une autre personne parce qu'arrivé à un moment donné, on savait qu'on avait besoin d'autre chose. Et alors qu'il a rencontré son frère, alors qu'il y avait une promesse sur sa vie, Jacob ne va pas rentrer de suite avec son frère. Il va attendre. Et je le lis pour vous, ne cherchez pas, c'est dans Genèse chapitre 33. Il est écrit que Jacob va arriver à Sichem. Et là, il va camper, dans le lieu où il va camper, il va acheter ce champ. Et Jacob, comme on a l'habitude de le connaître, cet homme qui était en dents de scie, après sa rencontre, une rencontre personnelle, peut-être une rencontre comme jamais il en a eu dans sa vie, c'est même sûr, cet homme-là qui n'avait pas l'habitude de monter, d'élever un autel pour son Dieu, cet homme-là qui était instable, cet homme-là qui peut-être avait des projets, mais qui voyait que dans sa vie, rien ne pouvait aboutir, dans ce champ-là, il va élever un autel. Et cet autel, il va l'appeler El Eloé Israël. Et vous savez tous ce que ça veut dire. Vous savez tous. La signification de cet autel qu'il va bâtir, c'est Dieu, le puissant Dieu d'Israël. Dieu, le puissant Dieu d'Israël. Nous aussi, est-ce qu'on a monté un autel comme ça dans notre vie? Est-ce qu'on a reconnu? Je pense que oui. Est-ce qu'on a reconnu que Dieu, c'était le Dieu puissant? Plus tard, dans Genèse 35, Dieu va se révéler encore à Jacob d'une manière encore particulière pour lui dire « Mais ton nom ne sera plus Jacob ». Et va lui dire « Je suis le Dieu Tout-Puissant ». Nous l'avons chanté, nous l'avons expérimenté. Et pour revenir à cette femme samaritaine, tous les jours de sa vie, elle allait dans ce puits. Et la Bible nous dit que l'endroit de ce puits, c'était près du champ de Jacob. Et cette femme, dont la vie était un désastre émotionnel, un désastre spirituel, mais qui néanmoins avait une connaissance religieuse, on va dire, une connaissance historique, une connaissance des personnages, tous les jours de sa vie, passait près du champ de Jacob. Tous les jours de sa vie, passait à côté du champ qui dit « Oui, Dieu est un Dieu puissant ». Mais est-ce qu'elle expérimentait pour sa vie personnellement? Est-ce que nous, en tant que chrétiens, nous avons encore cet autel dans notre existence? Est-ce que nous, nous ne sommes pas quelquefois semblables à cette femme samaritaine? Oui, on connaît. On a expérimenté, il fut un temps. On a expérimenté la puissance de Dieu, il fut un temps. Mais est-ce qu'aujourd'hui, cet autel est encore monté, est encore valable dans notre existence? Est-ce qu'au jour d'aujourd'hui, nous pouvons dire « Oui, le Dieu que j'aime, le Dieu que je sers est un Dieu puissant. Quand bien même je peux passer par des moments difficiles, je sais qu'il est tout puissant. Je sais qu'il règne, qu'il est souverain. » Je crois que cette femme samaritaine devait avoir le cœur meurtri. Parce qu'alors qu'elle venait à ce puits, elle pouvait se dire, et peut-être c'est le cas d'une personne cet après-midi, je passe à côté du champ qui dit que Dieu est puissant, mais pour ma vie, il n'est pas puissant. Dans mon existence, je ne vois pas la puissance de Dieu. Dans mon quotidien, je ne vois pas. Oh, peut-être que oui, je peux dire que pour un frère, pour une sœur, Dieu est puissant. Parce que j'ai entendu dire que Dieu a guéri. J'ai entendu dire que Dieu a béni. Pour un tel, dans une église, dans un pays, j'ai entendu ceci ou cela, mais dans ma vie, est-ce que la puissance de Dieu est actuelle et valable? Et je pense que cette femme devait être reconstruite, c'est évident, on le sait. La parole nous le dit, la délicatesse de notre Seigneur Jésus-Christ qui vient à sa rencontre nous montre qu'elle avait besoin d'être sauvée, que son âme avait besoin d'être sauvée, c'est sûr. Mais est-ce qu'elle n'avait pas besoin aussi d'être rétablie, restaurée, de comprendre que Dieu est venu parce qu'il s'intéressait, il se souciait de nous dans notre vie, dans notre quotidien, et qu'il était encore aujourd'hui tout puissant pour intervenir dans notre existence? Peut-être il y a des situations, on ne sait pas, qui sont terribles. Peut-être qu'on marche dans ce monde, on est dans un quotidien quelquefois qui nous masque complètement la puissance de Dieu, l'amour de Dieu, ce que Dieu veut pour notre vie. Et on est dans un quotidien où on ne voit plus tout ça. Et je pense que la manière dont Jésus est venu a pris le temps de s'arrêter pour cette femme, c'est ce qu'on doit comprendre cet après-midi, c'est que Jésus-Christ n'a pas changé. Et cette même délicatesse qu'il a manifestée, il va encore la manifester pour nous, en nous disant, mais attends, tu peux toi aussi bâtir un autel. Elle, Eloé, Michael, elle, Eloé, Monsieur Blanc, Jonathan, Dieu, le Dieu puissant, et on peut mettre notre prénom. Et cet après-midi, oui, il y a eu peut-être un chant. Il y a eu peut-être un épisode dans notre vie qui nous rappelle comment Dieu a été fidèle, mais peut-être qu'il faudrait s'occuper de ce champ, peut-être qu'il faudrait y revenir, y travailler pour que nous puissions, pour que vous puissiez, pour que moi, je puisse voir à nouveau la puissance de Dieu se manifester. Parce que je pense que Dieu n'a pas changé. Je ne sais pas si vous êtes d'accord avec cette réalité, mais Dieu n'a pas changé. Et ce qu'il a fait dans le passé, il peut le faire encore aujourd'hui. S'il a su guérir dans le passé, il peut guérir encore aujourd'hui. S'il a su sauver dans le passé, s'il a su nous sauver, est-ce qu'il n'est pas capable de sauver encore aujourd'hui? Est-ce qu'il n'est pas encore capable de bénir? Et je pense que nous devons faire plus que passer à côté du champ. Nous devons vraiment nous y attarder pour travailler ensemble à voir encore. On voit la puissance de Dieu. Je ne suis pas en train de dire qu'on ne voit plus. Mais je pense que Dieu veut nous amener encore plus loin. Le deuxième point que j'aimerais partager avec vous, c'est le puits de Jacob. Et je l'ai intitulé « Le puits de Jacob ou l'obéissance à Dieu ». Parce que quand même, parler de puissance, c'est super, ça réjouit notre cœur, ça nous rassure. Mais il y a quand même quelque chose à faire. On ne peut pas venir vers Dieu en disant « Mais tu es tout puissant, alors agis, fais ceci, fais cela ». Il y a quand même un prix à payer. Il y a quand même un prix à payer. Le puits de Jacob, vous savez, on a parlé du champ, et le puits de Jacob se trouvait dans un endroit aussi tellement important, tellement significatif. On a lu, et c'est le lien avec le livre du Deutéronome, ces deux montagnes, ces deux monts, le mont Garizim, le mont Ebal. Et le puits de Jacob se trouvait dans la plaine, au pied de ces deux montagnes, de ces deux monts. On ne pouvait pas y aller sans lever la tête, on ne pouvait pas se diriger vers ce puits sans comprendre que d'un côté, il y avait là comme le sceau de Dieu qui nous rappelait la bénédiction ou la malédiction. Cette femme samaritaine qui peut-être passait à côté du champ de Jacob se disait « Ah, la puissance de Dieu, ce n'est pas pour ma vie ». Ce chrétien qui est là, qui peut-être par mille et une circonstances veut aller s'abreuver ailleurs dans une autre source que Jésus-Christ, que la parole, parce qu'il y a eu là des déceptions, des blessures, ne peut pas lever la tête et voir l'importance qu'il y a à demeurer fidèle, à être obéissant, à comprendre que la parole de Dieu, c'est une bénédiction pour nous dans notre vie. Qu'on doit aimer la mettre en pratique, qu'on doit tendre à la mettre en pratique. Le puits de Jacob nous parle vraiment de cette obéissance. Il y avait cette loi, on ne l'a pas lue, mais c'est dans le Deutéronome, chapitre 27, c'est le verset 26, qui nous dit « Maudit, maudit soit celui qui n'accomplit point les paroles de cette loi et qui ne les met point en pratique, et tout le peuple dira Amen. Amen. » J'ai pas entendu beaucoup d'amen à ça. Mais je pense que cette femme samaritaine, vous savez, moi je me suis fait le film, je me suis imaginé quel était son quotidien, on le sait, on a l'habitude d'entendre des prédications sur ce passage, vous l'avez peut-être médité, lorsqu'elle sortait à la sixième heure, c'était pour éviter les regards, c'était pour éviter la foule, c'était pour être seule. Et cette femme, elle voulait peut-être être seule face aux autres, face à ses voisins, face aux populations, face à ceux qui l'entourent, mais face à Dieu, on ne peut pas vouloir être seul. Parce que Dieu nous voit, Dieu nous connaît, Dieu sait ce qui se passe dans notre vie. Et quand bien même cette femme se disait, mais voilà, comme ça je vais éviter les regards médisants. Et quelquefois, en tant que chrétien, on peut agir ainsi. On se dit, ah, je ne veux pas venir à l'église parce que je n'ai pas envie d'être jugé. Je n'ai pas envie de revenir, d'être là, de croiser un tel, parce qu'il va me poser cette question qui peut être tellement difficile. Alors, comment ça va dans ta vie? Spirituellement, est-ce que ça va bien? Et il y a des chrétiens qui peuvent être mal, et on peut être mal des fois, parce qu'on aimerait tellement avoir, atteindre des choses et on n'y arrive pas. Alors on redoute et quelquefois on peut nous aussi sortir à la sixième heure. On peut quelquefois sortir en espérant ne croiser personne. Mais on oublie que Dieu est là. Et cette femme samaritaine était là et marchait. Et alors qu'elle allait vers ce puits, alors qu'elle était là, qu'elle se disait « mais je vais devoir puiser, je vais faire vite », elle ne pouvait pas ne pas voir cette montagne qui lui rappelait que sa vie n'était pas en règle. Elle ne pouvait pas et on ne peut pas faire semblant. On ne peut pas vivre dans un compromis qui nous éloigne de la volonté de Dieu. On ne peut pas vivre dans une vie qui n'est pas en accord si on veut. Si on veut et si on a décidé de suivre Jésus-Christ, alors rentrons dans un chemin d'obéissance, dans un chemin de soumission, en prenant la parole de Dieu dans son intégralité, en disant « Mais Seigneur, c'est ta parole qui dirige ma vie ». Le mot « malédiction », vous savez, peut-être c'est un mot difficile, c'est un mot qui fait partie de la parole de Dieu, mais c'est un mot qu'on peut traduire de différentes manières. Il peut être traduit par être léger, être de faible valeur, non pas que nous sommes de faible valeur pour Dieu, puisque nous avons la valeur de son Fils Jésus-Christ, mais c'est dans le sens où si nous essayons de trouver un sens dans notre vie en dehors de Dieu, ce sera toujours vain, parce que la valeur de ce monde est néant face à Dieu. Et une traduction du mot « malédiction », c'est être envoyé de ci et de là. C'est errer dans ce monde, errer sans but, sans direction, sans attache. C'est d'aller ici et là, mais tout en ne sachant pas le chemin, en perdant de vue la vérité, la vie. Pour reprendre un verset que vous connaissez bien, Jésus-Christ, le chemin, la vérité, la vie. Et si on perd le chemin dans notre existence, si on n'a plus de GPS spirituel, si on n'est plus guidé par la parole de Dieu, quel est donc notre chemin? Quelle est donc notre vie? Qu'est-ce qui peut nous cadrer? Qu'est-ce qui peut nous montrer une direction? Et le mot malédiction signifie cela. Si on est sans Dieu, mais si on a connu Dieu et qu'on décide de prendre un chemin de traverse parce qu'à un moment donné c'est trop dur. Oui, on a connu la puissance de Dieu. Oui, on se rappelle que ce puits de Jacob est là pour nous montrer qu'on peut être béni. Il y a la malédiction, on y reviendra, mais on a le droit d'être béni. Mais le chemin de la bénédiction, c'est le chemin de Jésus-Christ. C'est le chemin qui nous fait passer par sa croix. C'est le chemin qui nous fait comprendre que c'est lui qui doit régner, diriger notre vie et notre existence. Je pense que l'amour de Jésus-Christ s'est manifesté à cette femme pour qu'elle puisse comprendre que dans sa vie, il y avait quelque chose de plus, qu'elle pouvait peut-être retrouver ce qu'elle avait perdu ou peut-être avoir ce qu'elle n'a jamais eu. Peut-être, mon frère, ma sœur, tu es là, tu vis dans une vie spirituelle, chrétienne, qui n'est pas celle que le Seigneur voudrait que tu vives. La traduction de Ébal, on pourrait comprendre le mont Ébal, bien sûr, ça signifie malédiction, ça symbolise cela. Mais c'était un mont sec, stérile, où rien ne pouvait pousser. Et on peut être dans une vie parce que chrétienne, parce qu'on a été meurtri, parce qu'il s'est passé des choses, et on se dit, mais c'est ainsi, je ne pourrai jamais refaire surface, je ne pourrai jamais revoir la puissance de Dieu, je ne pourrai jamais ceci ou cela, mais Jésus-Christ est venu s'asseoir au bord du puits. Jésus-Christ a pris le temps de venir parler à cette femme pour lui rappeler que quand bien même on essaye de se désaltérer, quand bien même parce qu'on a été blessé, parce que ceci ou cela, on cherche des sources, la seule source véritable, c'est celle du Seigneur Jésus-Christ. C'est lui qui veut désaltérer notre âme, c'est lui qui veut prendre soin de notre vie, c'est lui qui veut nous amener à saisir, à comprendre sa puissance, son amour, sa délicatesse. Parce que lorsque on aime, c'est facile d'obéir, c'est facile de vouloir le bien de l'autre. Lorsqu'on comprend l'amour de Dieu à notre égard, lorsqu'on saisit qu'il a tout donné pour nous, c'est facile alors. C'est facile de rentrer dans un chemin où on dit « Mais Seigneur, je veux à mon tour, en retour, me donner tout entier pour toi. » Et je terminerai avec ce troisième point. Le puits de Jacob replace la valeur de la croix dans notre existence. Il y avait quelque chose de particulier sur le mont Ébal, et je vais le lire pour vous. C'est dans Deutéronome 27, au chapitre 4. C'était un commandement, c'était demandé. Il est écrit « Lorsque vous aurez passé le Jourdain, vous dresserez sur le mont Ébal ces pierres que je vous ordonne aujourd'hui de dresser, et tu les enduiras de chaux. Là, tu bâtiras un autel à l'Éternel, ton Dieu. » Un autel de pierre sur lesquels tu ne porteras point de fer. Tu bâtiras en pierre brute l'autel de l'Éternel ton Dieu. Tu offriras sur cet autel des holocaustes à l'Éternel ton Dieu. Tu offriras des sacrifices d'action de grâce et tu mangeras là et tu te réjouiras devant l'Éternel ton Dieu. Tu écriras sur ces pierres toutes les paroles de cette loi en les gravant bien nettement. En les gravant bien nettement. Ça peut paraître contradictoire, mais c'est là le message de l'Évangile. Et c'est là le message pour notre vie, qu'on soit jeune converti, chrétien engagé, qu'on ait une connaissance peut-être partielle de la parole ou profonde, il y a toujours ce message qui est là. C'est l'amour de notre Sauveur. C'est la possibilité d'être restauré. C'est la possibilité de comprendre que Jésus veut nous guérir, veut nous bénir, mais que pour cela, il faut qu'on rentre, nous, dans un chemin d'obéissance, un chemin où nous nous abandonnons entièrement à lui, un chemin où nous voulons nous engager en prenant le baptême, si nous n'avons pas pris le baptême, en étant fidèles, en renonçant aux choses de ce monde, en nous séparant du monde pour vivre dans la sainteté, dans la sanctification, en nous consacrant. Toutes ces choses-là sont possibles parce qu'il y a eu un prix. Quelque chose qui a été payé. Oui, sur le mont de la malédiction, il y a eu un sacrifice. Et cette femme samaritaine, peut-être qu'elle n'avait pas d'espérance. On pourrait dire, et ça tient debout, à la lumière de ce qu'on lit, que la vie de cette femme samaritaine était sur le mont Ébal, sur cette montagne. Je ne sais pas, ce n'est pas une montagne où on a envie de s'installer pour vivre. Ce n'est pas un endroit où on aime vivre, rester. La vie de cette femme était bloquée comme ça. Et ça peut arriver dans notre vie chrétienne d'être bloqué, d'être perdu, parce qu'il peut y avoir mille et une choses. Et le danger, c'est de perdre vue avec l'œuvre de la croix. C'est de ne plus comprendre le sacrifice de Jésus-Christ. On croit que parce qu'on est baptisé, parce qu'on est chrétien depuis tant d'années, la croix c'est seulement un message pour l'évangélisation. C'est seulement pour ceux qui ne connaissent pas Jésus-Christ, mais la croix, ça reste le centre de notre message, de notre vie. C'est ce qui nous a bouleversés et c'est ce qui nous bouleversera encore. On va prendre la Sainte-Seine. Et on veut se rappeler la mort, la résurrection, le fait que Jésus a tout accompli, qu'il va revenir nous chercher, mais ça passe par la croix. Et cette femme samaritaine, quand bien même tout était figé, et quand bien même tout est figé, sclérosé dans ta vie, peut-être que tu es resté dans une étape, une période de ta vie, parce que tu n'arrives pas à en sortir pour mille et une raisons. On pourrait dire tous cet après-midi, en disant « Moi, ça m'est arrivé pour telle et telle raison. Il y a eu ceci ou cela. » Et plus rien ne pouvait se passer. Mais il y a eu ce commandement, il y a cette réalité. Oui, sur la montagne Ebal, il y a eu un autel également. Il y a eu un autel pour le sacrifice dans ta vie. Dieu ne t'appelle pas à vivre continuellement, constamment, les yeux baissés, fixés vers le sol, dans une vie où tu erres ici et là, où tu ne trouves plus ta propre valeur dans ton existence. Parce que la valeur du chrétien, c'est la valeur qu'a la place Jésus-Christ en nous. Notre seule valeur, c'est l'œuvre de la croix en nous. Et on est là, on ne voit pas de réponse à nos prières. On est là, on se dit, mais on est faible, on est sans puissance, alors que Dieu est un Dieu puissant. Et il y a cette volonté de Jésus-Christ de s'asseoir au bord du puits, de s'asseoir cet après-midi pour dire, mais ma source, elle est encore disponible. Ma source d'eau vive, elle est là. Le Saint-Esprit est encore là pour venir se manifester dans l'Église, mais se manifester là où nous sommes, dans notre maison, dans notre travail, auprès de nos voisins. Il y a encore cette source abondante qui est là, qui émane de Jésus-Christ. Parce que cet autel a été consumé, parce qu'il y a eu un autel de placé. Et on ne peut pas vouloir la puissance sans considérer l'autel des sacrifices, sans considérer Christ, la croix. Et cette femme samaritaine va voir sa vie bouleversée. Bouleversée. Elle va retourner au village pour voir ses voisins. Peut-être qu'au début, ils ont dit, mais on ne veut pas t'écouter. Toi, tu n'as pas à nous enseigner, toi, tu n'as pas à nous parler, tu n'as pas à nous dire ceci ou cela. Mais moi, je pense qu'ils ont vu sa transformation. Ils ont vu chez cette femme tout l'amour et la puissance de Dieu se manifester. Son champ a été restauré, sa vie a été restaurée. Elle a changé de source. Et c'est sûr qu'on peut être tenté aujourd'hui en se disant, mais peut-être qu'on pourrait rajouter une source, on pourrait rajouter quelque chose à la parole de Dieu. On serait tenté de faire cela en disant, mais est-ce que la croix seule suffit ou on ne pourrait pas rajouter ceci ou cela? Peut-être pour venir, pour qu'on puisse saisir des bénédictions. Il y a eu deux montagnes. Le mont Garizim, le mont Ebal, et il y a un seul chemin qui nous mène sur le mont Garizim. C'est le chemin de Jésus-Christ, c'est le chemin de la croix. Garizim, ça signifie coupant, tranchant, parce que l'œuvre de Christ en nous, c'est une œuvre qui est tranchante avec le monde. C'est une œuvre qui ne peut pas accepter de compromis. Et Jésus ne vient pas pour que nous soyons accablés, pour que nous soyons accusés, pour que nous soyons meurtris en nous. Mais Jésus vient encore cet après-midi pour nous rappeler, à nous qui sommes chrétiens, mais peut-être à d'autres qui n'ont pas fait ce choix encore, qu'il a tout accompli et qu'il désire que nous puissions nous saisir de ces réalités, pour que nous puissions peut-être voir de nos yeux que ce qu'il peut faire peut s'accomplir au travers de notre vie, que c'est possible. Cette femme va abandonner, je terminerai, va abandonner ses préjugés, va abandonner ce qu'elle a pu comprendre, concevoir de la religion, en disant « Nos pères nous ont dit qu'il fallait adorer. » Et la plupart des commentateurs s'accordent pour dire qu'elle parlait du mont Garizim, en disant « Mais nos pères se sont accordés pour dire qu'il fallait adorer sur ce mont-là. » Il y en a d'autres qui disent cela et elle va abandonner tout ça. Elle va comprendre que c'est nous le temple du Saint-Esprit, que c'est nous l'Église, que c'est nous qui sommes appelés à propager, c'est ce qu'elle va faire, propager cette bonne nouvelle. Bénédiction, on peut traduire par louange de Dieu et traité de paix. Et le traité de paix qu'elle a vécu dans sa vie, elle est allée le partager avec d'autres. Elle est allée comme une ambassadrice pour venir, pour porter des traités de paix autour d'elle. Et c'est à cela, je pense, que nous sommes appelés aussi. Je terminerai, et cette fois-ci c'est vrai, en vous lisant ce psaume, et je vais vous le lire dans la version Parole de vie. Ce psaume nous dit, c'est le psaume 107, au verset 4, « Certains étaient perdus dans un affreux désert, sans retrouver le chemin d'un lieu habité. Mourant de faim et de soif, ils étaient en train de perdre courage. Alors, dans leur détresse, ils appelèrent le Seigneur à leur secours, et lui les délivra du danger. » Ce psaume, j'ai pris ce psaume parce que j'ai vu là vraiment la vie de cette femme samaritaine. Et j'ai vu peut-être ce que ça a été dans notre vie à un moment donné, et peut-être quelqu'un qui vit cela. On peut être perdu dans un affreux désert, sans retrouver le chemin. Je ne sais pas si ça vous rappelle quelque chose. En étant perdu, en errant de ci et de là, pour mille et une raisons. Mais ce qui peut changer et qui changera toujours, c'est lorsqu'on appelle le Seigneur à notre secours. Il les mena par un chemin direct à un lieu habité. Qu'il loue donc le Seigneur pour sa bonté, pour ses miracles en faveur des humains, car il a donné à boire à ceux qui défaillaient de soif. Et ceux qui mouraient de faim, il les a comblés de tout le nécessaire. De tout le nécessaire. Il y a une nourriture à prendre. Il y a une nourriture abondante, une manne encore disponible pour nous. Et cet après-midi, je pense au travers de la parole, de ce que Dieu a voulu nous dire. Nous devons comprendre qu'il veut nous rassasier. Il veut répondre à notre soif, à notre faim. Il veut nous sortir des lieux déserts lorsque nous sommes perdus. Il veut nous enlever de cette montagne de malédiction, ce mont Ébal, parce qu'il y a eu un chemin, parce qu'il y a eu quelque chose qui fait que il y a eu un sacrifice, il y a eu un autel qui avait pu être consumé pour que nous puissions saisir pleinement ce lieu de la bénédiction. Je terminerai par ce verset, qui est un verset, je pense, peut-être beaucoup y ont pensé. C'est dans Galates, chapitre 3, verset 13, où il nous est dit « Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous. Car il est écrit « Maudit est quiconque est pendu au bois, afin que la bénédiction d'Abraham eût pour les païens son accomplissement en Jésus-Christ et que nous puissions recevoir par la foi l'Esprit qui avait été promis. » Christ s'est fait malédiction pour nous. Il y a eu un autel sur le mont Ébal. Et sur cet autel, vous l'aurez compris, on peut comprendre que sur notre mont Ébal, le sacrifice de Jésus-Christ peut être valable pour que nous puissions avoir part à cette bénédiction. Pour que nous puissions, dans l'obéissance, je devrais dire, avoir part à cette bénédiction. En suivant ses préceptes, en suivant ce que sa parole nous dit, nous avons droit à cette bénédiction parce qu'il est mort sur la croix pour nous. Nous allons prendre cette scène, ce saint repas. Quelle bénédiction! C'est le moment peut-être pour nous de dire, mais Seigneur, peut-être c'est vrai, j'ai douté. J'ai voulu aller sur cette montagne, j'ai voulu perdre pied, j'ai voulu aller entre les deux. Mais Seigneur, ma place, notre place à tous, c'est sur le mont Garizim. Parce que Jésus a tout accompli, Jésus a versé son sang. Et nous voulons être prêts, nous voulons être prêts pour le jour où il va revenir. Seigneur, merci pour ta parole, merci pour ce que tu as accompli, merci pour ce saint repas que nous allons prendre. C'est une bénédiction. Nous voulons nous rappeler de ce que tu as fait, de ce que tu as accompli. Oui Seigneur, tu t'es fait malédiction pour nous, pour que nous puissions avoir part. Prendre part à cette bénédiction que tu as prévue pour nous qui sommes tes enfants. Merci, merci de nous rappeler que tu es encore puissant, que tu peux agir, venir œuvrer dans notre vie, dans notre cœur, mais autour de nous, pour que nous puissions apporter des traités de paix. En ton nom, Jésus-Christ, nous voulons bénir les autres. Si tu nous combles de bénédictions, c'est pour que nous puissions aller et combler les autres de ta bénédiction. Aide-nous Viens à notre secours, mon Dieu. Merci pour tout ce que tu fais. Merci parce qu'au travers de cette femme samaritaine, tu nous montres ta délicatesse, ton amour, que le pardon est disponible. Mais que nous devons régler des choses aussi devant toi. Que nous devons, si nous devons nous repentir, et s'il y a là quelqu'un qui doit se repentir, mais faites-le. C'est cela qui réjouit le cœur de Dieu. Si quelqu'un doit abandonner une vaine façon de vivre, de marcher, un péché qui est là, mais faites-le parce qu'il y a cette bénédiction qui est disponible. Si vous êtes fidèle, désirez faire des progrès dans le Saint-Esprit, désirez œuvrer, être sensible à la voix de l'Esprit pour faire les œuvres que le Seigneur vous demande de faire, auxquelles il vous appelle. Merci mon Dieu pour tout ce que tu fais. Merci maintenant pour ce saint repas que nous allons prendre. Nous voulons te bénir, rentrer en nous-mêmes, considérer notre vie et prendre ce saint repas avec la bénédiction que tu as voulu que nous puissions le prendre. Merci mon Dieu, dans le nom de Jésus. Amen.